Nous sommes le jeudi 7 mai, il est 21h et des poussières sur Radio Canus 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier. On a fini par y arriver.
Ouais. Comment tu vas ?
Moi ça va pas mal. Et toi, t'as passé une bonne journée ?
Non. Enfin, alors, en vrai, oui, parce que j'ai vu des camarades, mais non, parce que ça a été assez un peu compliqué, un peu mouvementé. Je voulais, en fait, Romain et moi, là, on était préparés pour une émission pépère à parler de jeux vidéo autour d'une tisane.
En gros.
Voilà, mais l'actualité, on a voulu autrement. Mais avant d'arriver là, je dois signaler que, comme au début de chaque mois, Bettina est partie à la pêche aux infos au meet-up de Lyon Game Dev, et que en plus elle est peut-être en train d'être occupée sur un événement qui aura lieu les 14, 15, 16 mai.
La semaine prochaine ?
La semaine prochaine, c'est ça, hein. Ouais, au CCVA, un truc qui s'appelle l'Indie Game Lyon, dont on parle une fois de temps en temps.
Une fois par émission.
Une fois par émission, clairement. Et que donc, il a fallu trouver des remplaçants.
Oui.
Voilà, on a trouvé. Et en fait, bon, on n'a pas trouvé, hein, clairement, parce que, bon, Bettina, voilà. Bon, non, à la place, on a Julien. Salut, Julien.
Bonjour, Xavier.
Régulier, quand même. C'est pas un remplaçant, c'est.
Ouais, bon.
Non, mais si écoute, venant d'un envoyé du SNJV.
Oui,
moi, j'attends plus rien.
Voilà, donc, Julien, effectivement, qui est venu représenter le syndicat national du jeu vidéo, ainsi que le syndicat des éditeurs de loisirs.
Voilà. Évidemment.
Voilà, donc pour représenter la voix du patronat dans cette émission qui, évidemment, est un peu trop rouge à, ses, à son goût.
Comme la tapisserie de cette pièce.
Et
après, je tiens à vous dire quand même que Bettina est aussi patronne.
Alors, elle n'est pas.
D'une certaine manière, je la remplace un petit peu. Non. Elle est beaucoup trop compétente par rapport à nous tous pour pouvoir la remplacer, mais voilà.
Alors, je te laisse voir avec Bettina sur le fait qu'elle est patronne. Je te laisse voir ça avec
et
elle.
Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a pire ailleurs, donc moi ça va. Qu'est-ce que c'est que cette méthode ?
Quel enfer ! mais quel enfer ! Oh là 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 là.
On invitera un autre patron la prochaine fois.
Voilà. Et bon, comme bon, effectivement, la présence de Julien n'est pas assez, on va dire, elle n'est pas assez grande pour faire une émission de qualité, on a pris un touriste. Salut Clyde.
Salut Xavier.
Comment ça va ? Plus près du micro.
Ça va, tranquille. Je suis hâte de voir ce que ça va donner ce soir.
Très bien. Tu parles évidemment du Spidon qui va commencer demain. Alors, qu'est-ce qu'il y a au sommaire de cette semaine ? Eh bien, on va faire la suite de l'émission du 9 avril dernier, où on avait parlé notamment de l'entreprise Nacon, et de l'entreprise Big Ben, de ses déboires
avec la justice.
Avec la justice, hein, avec la justice, et de ses déboires avec ses créanciers. Et des conséquences que ça avait sur les différentes filiales. Et là, en fait, on a appris successivement la liquidation judiciaire de l'entreprise Spiders et la volonté d'un plan de licenciement massif chez Kiloton. On va un petit peu résumer tout ça. Déjà, Julien, Romain, est-ce que vous aviez suivi ça un petit peu de loin depuis l'annonce en début avril justement à la base tout était parti de l'annonce de redressement judiciaire de Nacon et de redressement judiciaire de quatre de ses filiales, donc dans l'ordre Spiders, Cyanide.
Kiloton
et Nacon Tech, sachant que je rajoute Big Bad Wolf qui dépend de Cyanide.
Chez Press F5, on a quelqu'un qui s'appelle Ashcrow et qui a suivi en fait le truc de près parce qu'il était plutôt attaché aux productions de Spiders. Mmh. Et du coup, ça l'a un peu attristé de voir la boucherie qui a été faite justement de Spiders cette dernière semaine.
Ouais. Parce qu'effectivement, du coup, la première info qu'on avait eue, donc début avril, c'était que ces quatre studios étaient mis en redressement, mais Spiders avait un droit et un traitement supplémentaire, puisqu'il était tout simplement mis en vente via une petite annonce, hein, clairement, c'était... C'était vraiment une petite annonce, quoi, qu'il l'a vu être proposé. Donc, on a eu une information, un petit peu d'infos sur la taille de la structure, c'est son chiffre d'affaires.
Et surtout, son taux d'endettement aussi.
Voilà. Et derrière, on a effectivement eu la confirmation que cette petite annonce n'avait rien donné. Et donc, la conclusion était annoncée à l'avance. S'il ne trouvait personne pour racheter le studio allait être liquidé, les employés licenciés. Et voilà, il n'est pas resté grand chose du truc, mais on a du coup appris par le communiqué du STJV de mi-avril, fin avril, je sais plus exactement quand c'était, fin avril ou je sais plus, mais du coup on a appris entre temps donc un petit peu les méthodes de Nakon sur la gestion de Spiders depuis le rachat, le fait que c'était un peu une coquille vide en termes de structure et de revenus et de moyens, enfin tout était vampirisé par Nakon, je sais jamais comment le dire, oui. et en soi c'était simplement en fait un client de sa maison mère, ce qui le gardait captif d'une certaine façon en tant que au niveau de ses différentes sources de revenus possibles, c'était complètement phagocyté comme ça.
Vous donner à peu près juste une représentation de comment est-ce que ça se passe économiquement parlant, c'est que quand une maison mère a une filiale comme ça, son seul objectif, c'est de la mettre à l'équilibre financièrement. Il faut qu'à la fin de l'année, le bilan comptable soit positif ou légèrement déficitaire, histoire de dire, on ferme pas la boîte. Ça nous permet de profiter d'une main-d'œuvre à pas cher, parce que du coup, nous, on récupère tous les bénéfices générés, enfin, tout le chiffre d'affaires est généré sur la maison mère quasiment, et on fait un contrat de prestation avec notre filiale qui nous permet de la payer tout juste ce qu'il faut. C'est un montage financier assez classique dans ce milieu-là. Oui. Vous voyez que ça sert d'avoir un patron.
Tu veux dire pour justifier l'injustifiable, bravo.
Je vous explique comment ça marche.
Et du coup, c'est aussi pour ça que Spiders, donc, aujourd'hui, va ne plus exister tout simplement. Mais oui. Parce que tout ce qui était propriété intellectuelle, les différents produits...
Oui, c'est important à rappeler.
Produits, du coup, par Spiders depuis toujours. Depuis 2012, c'est depuis à peu près l'époque
où parce que effectivement, Spiders, on rappelle, c'est surtout des jeux de rôle. Si je dis pas de bêtises, donc tous les Mars Warlocks, les Technomancers, les Gridfall notamment, Gridfall 2 aussi.
Mais d'abord Gridfall 1, puisqu'ils ont été rachetés ensuite. Enfin, ils ont été rachetés après le très gros succès.
Ainsi que Steel Rising qui a été fait.
C'était dans les mêmes mouvements que le
rachat. C'était chez Nakon.
Licence de Gridfall appartenait à Spiders, puisque c'est eux qui l'ont créé.
C'est ça.
Et au moment où Nakon les a rachetés, la licence est passée chez l'éditeur. C'est aussi comme ça que ça se passe souvent quand un studio se fait acheter par un éditeur, elle est dépossédée de toute sa propriété intellectuelle, c'est-à-dire de toutes les licences qu'elle a le droit de produire.
C'est ça, c'est le même principe par exemple lors des rachats sur... des rachats chez Microsoft notamment dont on a entendu parler. Alors le principe de filiale est un petit peu différent chez Microsoft parce qu'il est encore plus opaque et encore moins régi par la loi visiblement.
Ah, si, mais par d'autres lois du coup.
Par d'autres lois d'autres pays.
Oui voilà, d'autres lois d'autres pays, donc c'est un petit peu particulier. Mais effectivement tu as aussi ce système là où il y a quand même une grosse... non seulement une dépendance, mais surtout un système où les revenus en fait des filiales de Microsoft, un peu comme celle de Nakon, en fait n'ont pas la main sur leurs résultats, qu'ils fassent un bon, un mauvais jeu, qu'ils fassent un jeu qui marche ou qui marche pas, en fait
ça dépend pas d'eux
et ça va pas faire varier ni leurs revenus, ni leur salaire, ni quoi que ce soit.
Ils sont clairement en fait à la merci de leur maison mère qui décide en fait de leur donner plus ou moins de contrats, de leur donner plus ou moins de prestations. C'est encore une fois un moyen pour une maison mère de piloter une filiale sans avoir à payer des employés dans la maison mère en elle-même. Et ça permet de s'en séparer quand ça marche plus.
Voilà, donc c'est...
Mais du coup, comme on l'avait expliqué effectivement la première fois, même pour le groupe en fait, et les problèmes judiciaires et financiers qui amènent Nakon dans cette situation, qui sont pas forcément une question de résultats finalement techniquement, c'est juste que ils ont des dettes à payer et ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas payer ses dettes. Ce qui fait que ça a les conséquences que, bah, qu'on craignait et qu'on évoquait pendant l'émission et que, voilà, qui se concrétisent aujourd'hui d'abord chez Spiders, ensuite chez Kilotan au niveau des licenciements. Il reste les inconnus Cyanide,
oui.
Nakon Tech, mais qui est plus un studio donc, de motion capture.
Oui.
Donc un peu moins dans la production de jeux, donc de produits qu'on va réellement voir venir. Mais comme on le disait aussi, le problème de Nakon, c'est aujourd'hui, c'est d'avoir de l'argent.
C'est ça.
Et le fait de fermer Spiders ne résout rien à ce niveau-là. Presque au contraire, comme on le disait. Et dans le cas de Kiloton, c'est pareil. Enfin, ils vont réduire les coûts, globalement.
Alors, en fait...
ils n'ont pas gagné de l'argent parce qu'ils ont réussi à vendre quelque chose pour payer leurs dettes.
En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que le vrai problème de Nakon, ce n'est pas tant d'avoir de l'argent, c'est d'obtenir la confiance de d'un banquier. Et c'est-à-dire que quand tu arrives devant un banquier et que tu dis « Ok, vous dites que mes reins ne sont pas assez solides pour assurer mes arrières. Regardez, on a viré tant de gens, on a fermé tant de trucs. »
Du coup, on a moins de revenus.
Non, justement.
Non.
Dans leur logique,
c'est pas cette logique-là.
J'entends bien.
Dans leur logique, en fait, ils ont pas cette espèce de logique de dire, bah, en fait, on a des moyens de production qui vont nous permettre de rengranger des sous. En fait, ce qu'ils viennent de prouver dans le monde de la finance, c'est qu'ils sont capables de rationaliser leurs effectifs et leurs filiales, de les réorganiser, du right-sizing, comme dirait notre cher Yves Guillemot, patron d'Ubisoft. C'est le mot à la mode en ce moment, le right-sizing, que voulez-vous. Et du coup, ça redonne de la confiance ils redonnent de la confiance dans les marchés financiers parce qu'ils sont capables de prendre les bonnes décisions. C'est de la merde en barre, mais c'est comme ça fois que ça marche.
Et ça reste à prouver. Pour l'instant, c'est trop récent pour qu'on ait eu des informations sur le fait que réellement, ils vont obtenir l'argent dont ils ont besoin.
Oui,
pour
mais,
payer
par
leur
mais par
mais je comprends la logique. Hein,
mais
je
par
comprends
contre,
la logique
cette
et comment
logique,
ça peut être
cette logique,
compris. Mais...
cette logique de tu es dans la merde, alors tu vires plein de trucs et tu le montres bien fort en disant que regardez, on sabre, et en même temps, on fait de la communication typiquement comme le Nakon Connect pour dire regardez, on continue à produire des choses. Et ben ça, c'est ça a déjà été fait par d'autres boîtes dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo et ça a souvent marché.
Ça leur offre surtout du temps en fait de faire ça. Pardon. Ça leur offre surtout du temps de faire ça.
Oui.
Et ils rassurent les investisseurs, ils essayent de gagner de l'argent et s'ils ont un hit ou quelque chose derrière, ils pourront se relancer. Mais ça a double tranchant.
Ben surtout qu'il y a un timing en fait qu'ils vont devoir respecter par rapport à ces dettes dont on parlait et que pour lesquelles ils ont été, le groupe en lui-même, placé en redressement judiciaire. Donc, comme tu disais, rassurer les investisseurs, rassurer les personnes qui pourraient leur prêter de l'argent. On en est peut-être, je pense, à cette étape-là. Mm-hmm. Reste à voir si ça va fonctionner.
C'est ça.
Il se trouve, il n'y avait pas aussi une question que Nakon avait amputé déjà des studios de certains éléments pour créer d'autres studios pays.
Dans d'autres pays, je sais pas.
Dans d'autres pays, mais c'est quelque chose dont on va parler notamment, parce que aujourd'hui, il faut savoir que suite à cette annonce c'est pas une annonce officielle qu'a fait Nakon en disant on va faire un PSE. C'est effectivement juste une communication qui a été faite aux différents CSE, comme quoi il y allait voir un CSE.
Un
plan de sauvegarde de l'emploi qui est clairement un plan de licenciement, pour être clair.
Bah, c'est comme ça que ça s'appelle.
Oui.
C'est la novlangue, hein, c'est la.
Oui, c'est. Un plan
C'est surtout une obligation.
Voilà, c'est surtout une obligation, c'est-à-dire que quand tu dois virer plein de gens, c'est-à-dire plus de 9, littéralement, il faut que tu fasses un plan de sauvegarde de l'emploi.
Voilà, mais c'est pour ça que je parlais justement de cet autre studio qui n'était pas en France. Parce que les autres pays n'ont pas forcément cette obligation de PSE et ça peut arranger des maisons mères qui vont du coup reprendre de la compétence quelque part, la mettre dans d'autres pays où ils seront, entre guillemets, moins emmerdés.
Oui, après, en tout cas, c'est pas ce que j'ai... Sur l'enquête que j'ai menée, c'est pas ce que j'ai vu sur Nakon. C'est peut-être le cas. Hein. Je dis pas que c'est pas le cas. Hein. C'est juste
parce qu'ils ont effectivement ces studios en France dont on a parlé.
Et ils ont d'autres studios qu'on n'a pas évoqués.
Mais ils en ont également ailleurs dans le monde. Donc voilà. Il peut y avoir un peu cette logique.
C'est ça. Et peut-être. Sachant qu'en plus, dans les autres pays, on connaît pas les obligations légales par rapport à tout ce qui est redressement et liquidation. Je sais, par exemple, je sais pas comment ça se passe. Je sais qu'ils ont des studios notamment en Italie. Ils ont une partie au Canada, et je sais pas exactement comment ça se passe. Je sais que au Canada c'est un petit peu plus simple si vraiment tu veux liquider une boîte, notamment. Mais donc ce que tu dis est peut-être arrivé, mais pour l'instant c'est pas, en tout cas c'est pas arrivé à mes oreilles. Faudrait que je pose plus de questions.
C'est encore un, STJV, en tout cas. C'est encore un peu tôt dans le feuilleton Nacon en tout cas.
Mais par contre il y a eu effectivement cette logique de recréer une entreprise pour la nourrir des éléments que tu voulais garder.
Ouais, mais ça je vais en parler tout voilà. à l'heure parce que j'en suis pas encore là. Okay. Vu que, comme je disais, aujourd'hui c'était un jour de grève, donc après.
Oui, parce que du coup, l'annonce est d'hier.
Oui,
l'annonce est enchaînée tout de suite.
L'annonce a été faite hier aux différents CSE. Les différents CSE, notamment de Kiloton, qui est basé à deux endroits, à Lyon et à Paris, ont décidé de débrayer. Donc, et donc il y avait des piquets de grève qui étaient organisés à Paris et à Lyon. Et je me suis rendu au piquet de grève à Lyon, devant le siège donc de Kiloton, pour voir ce qu'il en était. Des gens assez désabusés. Déjà des têtes que j'avais déjà vues en février dernier, lors de la GG 2025, qui était la grande grève du monde du jeu vidéo, avec déjà un cortège qui était allé dans différents studios dans Lyon, qui était notamment allé chez Pastèque Games, qui était allé chez Virtuos, qui était passé chez Arkane, qui était voilà un peu partout, et qui avait déjà eu un stop devant chez KT Racing à l'époque. Et je me souvenais qu'à l'époque il y avait déjà eu un discours assez offensif en disant que le dernier qui avait essayé de piétiner nos droits, il avait pas eu gain de cause et il avait dégagé. Effectivement, ce que je ne savais pas à cette époque-là, c'est que les gens parlaient en fait de à l'époque le patron de KT Racing. Voilà, KT Racing.
Oui, c'est le nouveau nom. Voilà. On dit Kiloton par habitude, voilà. Mais le nom officiel, c'est KT Racing.
Oui, voilà, c'est ça, c'est KT Racing, donc le successeur de Anne Desvoissoux, qui a fini par se faire virer de la boîte, pas parce que les patrons pensaient qu'il était mauvais, mais parce que en fait suite aux nombreux signalements de harcèlement moral face à ses subordonnés, mais même à des cadres, hein, même à des cadres dirigeants. Il y a eu un CSE où ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit en gros soit en fait on balance tout façon Ubisoft et là c'est tout le monde qui prend, soit lui il dégage parce qu'il est extrêmement toxique. Et en gros le gars a fini par partir, enfin il a été remercié avec tous les flonflons et tout ça, mais en plus ça a été un argument de la direction pour dire oh, regardez ça va mieux, on a viré la personne toxique. Non mais peut-être pas la faire venir déjà, pas la laisser prospérer, etc. quoi.
Ils ont reçu à trouver pire que Anne.
Apparemment Anne c'était quelque chose et ben lui était pire effectivement.
Non mais c'est bien, hein, raising the bar.
Parce que effectivement malheureusement pour elle, elle a un tableau de chasse inquiétant.
Oui,
on part de chez Kiloton pour aller chez Spiders. Ouais. Elle pourrait laisser du sel derrière elle pour qu'elle repousse. Enfin, ça marcherait pas.
Ah c'est terre, brûlée.
Ouais. Donc,
alors déjà, tu veux vraiment partir là-dessus?
Tu viens de perdre le droit de parler dans cette émission en chantant du Sardou. Mais du coup, on va peut-être aller un peu plus loin.
Dis quelque chose d'intéressant.
Voilà, donc je suis allé sur ce piquet de grève devant le siège de KT, après avoir discuté avec des employés grévistes. Faut savoir déjà que Kiloton en gros c'est environ 35 personnes sur Lyon, okay, plus l'intégralité des salariés de Kiloton qui sont en full télétravail, parce qu'on va pas les mettre sur la partie parisienne parce qu'on sera obligé de mieux les payer. Quand même, c'est un minimum, et que il y avait pas.
C'est un métier.
Oui, c'est un métier, et qu'il y avait pas que des personnes du STJV et de Kiloton. KT Racing, je n'y ferai pas, mais il y avait aussi quelques devs indés qui étaient là, et aussi notamment des personnes de Ubi Annecy qui avaient fait le déplacement.
D'accord.
Et donc j'ai discuté avec Emeline, qui est représentante, qui est au CSE, qui est représentante syndicale, qui est syndiquée donc au STJV, qui était donc qui tenait le piquet de grève. Et je lui ai posé d'abord la question de l'ambiance autour du studio suite à l'annonce précédente.
L'ambiance au studio, elle n'est pas très bonne depuis, pas que hier, hein, depuis quand même plusieurs mois. On a averti au CSE plusieurs fois des problématiques de gestion et notamment des problématiques économiques du studio qui aujourd'hui font qu'on est en redressement judiciaire. Les salariés, pour beaucoup, sont assez désespérés. En plus, en ce moment, l'industrie du jeu vidéo, elle va pas fort. Donc tout le monde craint pour ses emplois. Et actuellement, des pertes de travail, c'est juste dramatique pour tout le monde. C'est juste dramatique pour tout le monde. Et nous, aujourd'hui, on fait grève pour essayer de lancer un élan de solidarité entre les travailleurs pour se soutenir mutuellement dans l'épreuve.
Oui. Oui, le truc aussi, c'est que, comme elle le disait, par rapport à Nacon et à la grève qui avait eu lieu notamment en 2025 au GG 2025, il y avait une grosse inquiétude de tout le monde du jeu vidéo par rapport à la réemployabilité. Et que quand tu sais, en fait, qu'on te dit, bon, bah, en fait, il y a une 70 personnes qui vont être parties, ça va pas le faire. Je suis allé voir tout à l'heure, notamment sur LinkedIn, sur les effectifs, tout le monde est open to work et voilà quoi, c'est.
Et ils vont le rester un moment parce qu'en ce moment, dans l'industrie du jeu vidéo, notamment en France, ouais. T'es licencié, pas beaucoup d'espoir de retrouver un boulot avant un petit moment.
On l'avait vu avec les offres d'emploi en fait en début d'année, c'est le l'AFJV qui avait publié ça, en fait les chiffres un petit peu, ils avaient fait le tour des annonces et le nombre d'annonces était beaucoup moins important, et notamment dans certains corps de métier, où c'était d'autant plus marqué par rapport aux années précédentes. Effectivement, il y a toujours un petit peu un nombre d'offres d'emploi qui circulent, et là effectivement on était quand même sur une véritable chute massive depuis déjà qui avait commencé l'année dernière, mais qui est encore plus importante en ce moment. Donc effectivement, sur le fait de retrouver du boulot derrière,
c'est globalement lié à tout le secteur de la tech avec la montée de l'IA justement qui prend pas mal de place. Il y a des métiers de junior en fait qui sont même pas renouvelés, il y a des gens qui partent mais ils sont pas remplacés. C'est un s-bull en ce moment dans le monde de la tech et le jeu vidéo couvrant tellement de métiers, puisque vous pouvez aller du dev, du graphisme, etc. Basiquement, c'est un secteur qui touche tellement de métiers que, et c'est que des métiers qui sont concernés justement par ces problématiques.
Oui, et en plus, c'est comme on le dit, c'est un secteur qui est encore moins protégé par rapport à tout ce qui va être convention sociale de manière générale et dialogue social de façon plus précise, vu que ça soit par exemple même le monde du web a quand même un lien souvent avec l'industrie et peut avoir aussi des fois des liens notamment sur tout ce qui va être dialogue social, même si c'est pas on n'est pas au niveau par exemple entre l'industrie pure et dure et le monde du web, on n'a pas un dialogue social qui est exactement du même acabit. Néanmoins, il y a quand même une considération qui vient notamment de jurisprudence prud'homale, qui fait que une boîte qui est dans la tech pure et dure en France et qui s'amuse à ne pas connaître le code du travail, c'est pas une bonne idée. C'est moins le cas dans le jeu vidéo. Pour l'instant, la vision de la syndicalisation dans le jeu vidéo, c'est l'ennemi, pas un partenaire. C'est l'ennemi, et donc c'est en gros c'est soit en fait tu fais ton métier passion et tu dis rien et tu fais comme le patron te dit, soit en fait tu es un affreux bolchevique qui veut juste tuer la productivité, quoi.
Il ne faut pas contraindre les entreprises. J'ai entendu cette phrase il n'y a pas si longtemps.
Par l'ancienne patronne de Caterine.
Et du SNJV.
C'est ça.
Après, je pense pas, je te laisserai continuer sur oui. Le sujet du jour, mais juste pour rebondir là-dessus, je pense pas tellement que ce soit une. Enfin, c'est surtout une question d'âge de l'industrie du jeu vidéo, parce que dans tous les autres corps de métier, on va dire que c'était à une époque moins ancrée dans le capitalisme et dans le néolibéralisme. Ce qui fait que ce dialogue social, il est né aussi de ces périodes-là, en fait. Il est né des périodes qui étaient moins empreinte de cette mentalité économique et de cette omniprésence économique du capitalisme. Le jeu vidéo, il est né en plein dedans. Cette industrie, elle est née dans ce vivier économique. Il y avait déjà plus de dialogue social en fait quand l'industrie du jeu vidéo s'est déployée, s'est démocratisée en fait.
Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que le jeu vidéo s'était démocratisé avant, par exemple, que le web arrive. Et pourtant, l'industrie de la tech, du web, je parle en France uniquement, a un dialogue social qui est pas celui du jeu vidéo.
Parce que le web est dérivé du marketing et de la communication qui existait avant.
Et pourtant, enfin, moi je me souviens de 2003-2006, c'était le jeu vidéo pour le coup. Il n'y avait pas de dialogue, il n'y avait rien, c'était le Far West. Bref. J'ai voulu donc un peu aller plus loin pour demander notamment à Enlin comment s'est passé en interne l'annonce du redressement. L'annonce du redressement qui a eu lieu, vu que on parlait justement de. Du PSE en fait qui était annoncé donc hier, mais le redressement c'était déjà il y a un mois vu que c'était début avril à peu près.
Fin mars, tout début avril.
Ouais, fin mars, début avril, pour savoir justement comment les choses étaient, comment l'ambiance était entre ce moment-là et puis l'annonce qui a eu lieu hier.
L'annonce du redressement judiciaire, pour les élus du CSE, ça n'a pas été un choc parce que nous, on l'a vu venir. Ça fait des années qu'on avertit sur ce risque. Par contre, à l'échelle des salariés, ça a été un choc parce qu'il faut savoir que notre direction nous assure tout le temps qu'il n'y a aucun problème de gestion, Nacon est un soutien financier indéfectible et on peut leur faire confiance et travailler en bonne intelligence avec. On se rend bien compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas et qu'à peine Nacon a un problème, on a un effet domino qui crée des problèmes dans ses autres studios et aujourd'hui, on doit payer les pots cassés de manquement de gestion de la maison mère.
Oui, en fait, pour le coup, là, c'est des choses dont on parlait auparavant, c'est-à-dire que c'est lié à une discussion que j'ai eue avec elle pour le coup hors micro et qui rejoint le fonctionnement dont on parlait entre Nacon et Nacon. Bon. Ça sera une fois sur deux.
En interne, ils disent Nacon. Nous, on avait pris l'habitude de dire Nacon.
Ouais.
On
dira une fois sur deux. la dépendance totale des filiales par rapport à la maison mère, et surtout le fait que même avant qu'il y ait cette histoire de redressement et de on a besoin de cash et tout ça, structurellement, les filiales de Nacon sont en déficit. Pour assurer que la maison mère ait assez de cash.
Ouais, un petit peu comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est le fait qu'ils fonctionnent en client, ils possèdent tout, les IP, etc. Et simplement, ils gèrent à ta place. Quoi.
C'est ça. Et, quand il n'y a pas assez de cash au sein des filiales pour continuer à financer les jeux, ce sont les filiales qui font des avances.
C'est ça. En fait, pour vulgariser aussi le fonctionnement de ça, vous voyez en fait les filiales d'une telle maison mère comme des espèces de petites tirières cochons dans lesquelles on met de l'argent. Parce que quand la maison mère engrange des bénéfices, elle ne va pas forcément tout récupérer pour, on va dire, optimiser la façon dont l'argent est distribué. Potentiellement, une maison mère n'a pas forcément intérêt à avoir énormément de trésorerie. Elle va préférer en laisser dans ses filiales pour que ça tourne, que ça obtienne de la confiance, nanana, sur les marchés, tout ce qu'on veut. Et surtout, c'est une réserve de cash pour le jour où la maison mère, elle en a besoin. Elle va faire un appel à ses filiales pour que, basiquement, elle récupère du cash.
Effectivement, c'est ça qui s'est passé. Et pour le coup, je rebondis sur autre chose dont tu as parlé tout à l'heure, le fait de, par exemple, essayer de délocaliser certaines ressources pour essayer de gagner de pour gagner faire des économies ou gagner de l'efficacité ou autre chose. C'est quelque chose qui on peut dire que c'est ça qui s'est passé du côté de KT Racing avec la création de Grid Games. Grid Games, en fait, ce qui s'est passé, c'est quelque chose dont on avait parlé déjà, que j'avais évoqué déjà lors de l'émission du 9 avril, c'est que donc KT Racing est une entreprise qui fait essentiellement des jeux de voitures et qui historiquement avait avait une licence qui s'appelle la WRC, donc pour tout ce qui est rallye. Cette licence avait été perdue il y a quelques années par Nacon
Au
profit d'Electronic Arts. Electronic Arts a sorti un jeu, il était pourri et le WRC était pas content, donc ils l'ont redonné à leur acteur historique. Et donc tout le monde pensait que la licence WRC allait revenir chez KT Racing. Elle est bien chez Nacon, mais elle n'est pas chez KT Racing. Et à l'époque, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé en fait. Et effectivement, on a su après en regardant notamment l'annuaire des entreprises qu'il y avait une nouvelle entreprise qui existait qui s'appelle Grit Games et qui apparemment faisait des jeux de voitures. Donc j'ai demandé comment s'est passée l'annonce de voilà la création de Grit Games auprès d'Emeline.
La large majorité des salariés de Grit Games sont des anciens de chez Kiloton qui bossaient encore chez nous il y a moins d'un an. Le patron de Grit Games est notre ancien directeur technique. En fait, on a vu nos collègues changer de comportement en fait assez progressivement. Il y avait une espèce d'ambiance malsaine au studio pendant un certain temps en été de l'an dernier où les gens étaient un peu mystérieux, il n'y avait rien qui se disait. Il y avait en gros quelque chose qui se tramait, on ne savait pas exactement quoi. Il faut savoir que c'était juste après qu'on apprenne que Kiloton ne récupérait pas la licence WRC, alors que Nacon venait de racheter les droits. On comptait dessus comme projet suivant, parce que là on sort un jeu, c'est Endurance Motorsport cet été, et on pensait que ça allait être la suite logique, qu'on allait récupérer la licence. Et au fur et à mesure des semaines qui passaient, on a appris que nos collègues, qui étaient un peu mystérieux, en fait, avaient été contactés pour aller travailler dans cette nouvelle structure, qui s'est avérée être une structure de Nacon. Donc, notre maison mère crée une structure qui embauche nos salariés, enfin nos collègues, pour travailler sur la licence qu'historiquement on développe. Ben, ça n'a pas mis une très très bonne ambiance, et surtout là où ça a été particulièrement problématique, c'est que la maison mère ne nous a pas autorisé à réembaucher les profils qui étaient partis après. C'était quand même beaucoup de gens expérimentés qui avaient des postes clés, beaucoup de management, beaucoup de seniors, et on ne nous a pas autorisé à réembaucher ces gens, ce qui fait qu'on a dû maintenir les productions avec les délais qui étaient prévus, avec quasiment une vingtaine de personnes en moins. Ça a été un vrai carnage. La production d'Endurance Motorsport en a pâti. Les gens essayent de finir le jeu du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, mais les effectifs en moins, c'est pas non plus faire de miracle.
Voilà, donc on appelle ça du sabotage, hein, on va pas
c'est
se mentir.
C'est complètement du sabotage.
Ouais, mais voilà, tu viens récupérer les compétences, les forces vives, et en plus de ça, d'ailleurs, ça fait partie du communiqué du STJV d'hier. Comme quoi, les profils qui ont été récupérés par Nacon chez KT pour les mettre chez Grit Games, ils ont été un peu choisis aussi.
Oui, effectivement. Pour quelques précisions aussi, qui sont une qui est notamment sur le communiqué du STJV, ce sont des salariés et aucune femme n'a été embauchée, évidemment.
Aucune femme a été récupérée de KT.
Aucune femme n'a été récupérée, voilà. Autre chose, toutes les personnes qui ont été embauchées, aucune n'est salariée. Aucune n'est syndiquée, pardon, excusez-moi. Genre aucune.
Donc le choix a été précis, quoi.
Voilà. Et pareil, hein, les gens qui partaient de la boîte étaient contents d'en partir parce qu'ils n'aimaient pas trop il y a des gens qui étaient contents de partir parce qu'ils n'aimaient pas trop les traîtres qui restaient.
C'est dur comme
super l'ambiance.
Ouais.
Wow. Il faut savoir un truc, c'est qu'en France on parle, vous entendez beaucoup dans les médias traditionnels le fait qu'il faut laisser les patrons faire, etc. Il faut donner de la liberté. En France, c'est un sport national de créer des entreprises. On n'a pas grand-chose à envier à nos voisins outre-Atlantique. Nos alliés, pardon. C'est comme ça qu'il faut les appeler ?
En tout cas, Donald aimerait bien.
D'accord. C'est, tu as des bifetons encore là-bas, toi? C'est pas possible.
Il a des arrières assurés, quoi qu'il se passe.
J'en parle avec mon pote Jared. Bon, bref.
Donc, du coup, en France, c'est un peu un sport national de créer des entreprises, de monter des holdings, etc. On pense que c'est pas facile avec la notion de protection de l'emploi et tout. En fait, c'est très simple de monter des boîtes et c'est même très normal. Vous voyez, en fait, même à un petit niveau, vous arrivez très rapidement en tant que patron à dire « Ah bah tiens, vous avez une boîte qui fonctionne bien, vous allez monter une SCI, va y avoir une holding qui va gérer ça, vous allez avoir des parts ici et là. » Et en fait, vous vous rendez compte que vous faites des montages financiers extrêmement facilement. Et ces montages-là, ça permet également de contourner les principes de licenciement, ça permet de contourner en fait les principes de discrimination à l'embauche. Parce que là, typiquement, ce que Nikon a fait avec Grid Games, c'est basiquement, ils n'ont pas eu à virer les personnes qu'ils ne voulaient pas. Ils ont juste créé une nouvelle structure qui ne coûte pas grand-chose à leur échelle pour embaucher les profils qui les intéressent. Et du point de vue de la loi, du point de vue de la loi française, ce qu'ils n'ont fait n'est pas discriminant.
Il y a aussi une question que j'ai trouvée intéressante, qui a été soulevée par les gens dans le piquet de grève. C'est de dire que normalement, vu que Nikon est aussi en redressement judiciaire, il y a donc normalement un administrateur de ce redressement judiciaire. Si tu fais un redressement judiciaire dans la boîte, tu devrais normalement, les premiers touchés, ça ne devrait pas être les boîtes qui ont été désignées, mais les dernières arrivées. Ça paraît logique parce que les dernières boîtes arrivées, en fait, sont celles qui sont moins historiques et c'est plus facile de s'en débarrasser.
Pas forcément, parce que c'est des entités morales qui sont différentes. Et là, aujourd'hui, Grid Games n'est pas en redressement.
Justement, le truc, c'est que le redressement a été signalé. C'est Nikon qui a dit que ces quatre boîtes-là doivent être mises en redressement.
Oui, c'est la maison mère qui choisit quelles sont ses filiales qui sont placées en redressement judiciaire, mais sachant pertinemment qu'une maison mère peut retirer de l'argent d'une filiale pour dire « Regardez, il n'y a plus d'argent dans celle-là. »
Oui, mais la question, c'était de dire l'administrateur de redressement judiciaire aurait très bien pu dire « Vous ne pouvez pas faire ça de façon aussi arbitraire. Il y a peut-être d'autres critères à prendre en compte. Oui. » Sauf que ce n'est pas ce qu'a choisi de faire l'administrateur judiciaire. D'ailleurs, si vous regardez le nom de l'administrateur judiciaire, vous devriez aussi, si vous tapez son nom sur Internet, vous devriez tomber sur des articles de Mediapart.
Sur le tribunal de Lille, c'est ça, hein?
C'est ça.
Tout se passe là-bas, voilà. Quel que soit le site finalement des
c'est
différentes
ça. C'est ça, c'est
entreprises,
ça.
Le siège social.
Voilà. Okay. Comme je le disais aussi, il y a donc deux parties à la stratégie de Nikon. La première, c'est de montrer au marché qu'on s'est rationalisé. Hein, en virant des gens, en dépensant moins d'argent, ou pas, enfin bref, tu m'as compris, oui, Romain, oui. Voilà. Et la deuxième partie, c'est de dire, on est encore vivant, on est encore actif, on va sortir des jeux, d'où ce soir a eu lieu la Nikon Connect.
On a jeté un œil avant de venir.
On a
vu des noms qu'on pensait pas voir.
Effectivement, avant qu'on en parle un peu, vu qu'on a tous regardé, on a tous notre avis dessus, j'ai demandé à Emeline ses attentes sur la Nikon Connect.
À quoi je m'attends? Je pense qu'ils vont absolument mettre sous le tapis tout ce qui est en train de se passer judiciairement parlant. Notamment la fermeture de Spiders, qui est une honte. On parle d'un studio qui faisait des jeux rentables depuis 20 ans, qui a été fermé en 15 jours, et les salariés laissés sur le pas de la porte, comme ça, de manière profondément injuste. Donc je pense que Nikon va bien mettre en avant leur dernière production pour eux ramasser un maximum d'argent dessus. Je pense qu'ils vont faire pareil avec nos jeux en les mettant bien en avant, sans dire qu'ils sont en train de virer un nombre très important de salariés. Je pense aussi, il me semble qu'ils vont annoncer que Grid Games récupère la licence WRC, parce que pour le moment, il n'y avait pas encore eu de communication là-dessus. Moi, ce que j'espère, c'est que compte tenu de la couverture presse qu'il y a eu sur le redressement judiciaire de Nikon et ses conséquences sur ses filiales, les gens vont en parler. J'espère honnêtement que les gens vont en parler, que les gens vont investir les chats, poser des questions qui vont perturber en fait la cérémonie, puisque n'y a pas de raison qu'on laisse Nakon sur le devant de la scène se mettre en valeur avec tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on devait avoir à Kilotonne l'annonce de notre plan de licenciement hier.
Plan de sauvegarde de l'emploi.
Oui, c'est un plan de licenciement, soyons honnêtes, hein, c'est plus facile comme ça, c'est moins perturbant, je trouve, pour les auditeurs aussi.
Oui. Mais tu as raison, mais c'est juste moi qui fais de l'esprit.
Non, mais tu as raison, ça s'appelle officiellement un PSE dans la France à Macron. Mais on devait avoir cette annonce hier, ça a été décalé d'une semaine, et on suppose, nous, que c'est pour éviter, enfin, qu'ils espéraient qu'on ne communique pas là-dessus. Sauf que il était hors de question qu'on leur laisse le champ libre, en fait, pour les laisser dérouler leur spectacle pendant que nous, on va perdre nos emplois dans potentiellement 3 semaines. Nous, au syndicat, on demande...
J'ai pas appuyé au bon endroit.
Mais du coup,
la première chose que je me dis, c'est la fin de son intervention, c'est pourquoi ils ont annoncé ça hier. C'était quoi l'intérêt de ne pas attendre que le Nakon Connect se passe avant de communiquer, tu vois, enfin, je sais pas.
Je pense que c'est quelque chose de combiné, hein, c'est-à-dire que d'un côté, enfin, en termes de communication macro pour le banquier, tu sais,
oui.
La communication macro pour le banquier, c'est hey, regarde, on va moins dépenser d'argent et hey, regarde, on est toujours vivant.
Oui, je vois ce que tu veux, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et c'est la synchronisation de tout ça.
C'est ça.
Si demain n'avait pas été un jour férié, peut-être qu'ils auraient attendu demain pour annoncer les
autres. Tu vois ce que je veux dire, ouais.
Il y aurait peut-être eu une logique comme ça.
Ouais. Une simple erreur de communication. Tout simplement, pardon, une simple erreur de communication, ils ont annoncé trop tôt sans penser à la Nakon.
Alors, sachant que la Nakon a déjà été repoussée, elle devait avoir lieu début avril, si je dis pas de conneries.
Peu de temps après, les premières informations sur le déboire.
Sachant que, par exemple, il y a une des personnes qui était au piquet de grève à qui on avait demandé de faire des heures sup pour assurer des choses pour la Nakon Connect, et la personne a répondu « j'aimerais bien, mais je suis en grève ». Donc voilà.
Oui, merci.
Pas mal. Mais du coup, ça pose effectivement, enfin, dans l'ordre, on a. Elle avait raison sur pas mal de choses.
Honnêtement, elle avait. À part sur le dernier point, effectivement, où je pense que ça a peut-être été envisagé, mais clairement, c'était pas dans ce qu'on a vu. Effectivement, le fait de ne pas parler du tout de ce qui se passait. C'était
alors,
le cas.
Je suis pas étonné dans le sens où c'était pas une conférence avec présentateur.
Bien sûr.
C'était juste un enchaînement.
Attention, il y a eu des gens qui parlaient.
Oui, mais pour parler des jeux en question.
Ça a été enregistré il y a 2 mois.
Oui, oui.
C'est possible aussi. Oui,
d'ailleurs, on va reparler parce qu'il y a eu notamment deux gens de Cyanide qui parlaient. Ils avaient l'air très heureux.
Mais au-delà de ça, il y a effectivement un point sur lequel on n'a pas pu avoir. Enfin, là, ça s'est passé trop tôt. Sur l'investissement des gens dans l'espace.
J'ai pas regardé les commentaires.
Voilà, on n'a pas vu les commentaires, soit sur. J'imagine que c'était sur Twitch en même temps que sur YouTube. Oui. Donc je sais pas voilà, s'il y a réellement eu du mouvement là-dessus. J'imagine que ça va enchaîner aussi, que les différents médias, que ce soit français, avec Origami, avec tous ceux qui suivent le sujet depuis un moment.
Oui, notamment, il y avait notamment avant moi, enfin la veille, Emeline avait été interviewée par Erwan Cario, de Libération. De Silence en Joue, pour dire qu'il y a, enfin, il y a quand même un suivi.
C'est ça, et peut-être même au niveau international, parce que ça reste un truc. Voilà, moi j'ai vu des articles dans la plus grande majorité des sites d'information, que ce soit PC Gamer, Eurogamer, ils ont parlé de ce qui se passe du côté d'Econ depuis un moment.
Bah en fait, le truc, c'est qu'il faut dire que, même si on a un côté très franco-français, franchouille, tout ça, des jeux comme Gridfall, ça a marché partout. Necon, c'est des gens qui ont édité le dernier jeu Robocop qui a bien marché aussi. Ça reste des jeux qui ne sont pas uniquement sur le prisme franco-français, parce que forcément nous quand on pense à Necon, on pense à leur man annuel qui s'appelle Pro Cycling Manager et Tour de France, tu vois, qui sont des jeux pour le coup très français, très très français dans leur approche,
et qui se vendent pas tant que ça en vérité. Ils en vendent quelques centaines de milliers.
C'est juste parce que c'est loin d'être
leur plus gros gagneur.
Oui, c'est ça. Mais c'est juste parce que en fait, ce sont des jeux. C'est les derniers jeux les derniers jeux PC qu'on voit en magasin.
Et ils ont malgré tout une assez grosse présence internationale. C'est un des jeux aussi pour lesquels ils ont de la localisation, du doublage anglais.
Oui.
Et français.
Bien sûr. Oui, oui. Et puis, voilà. Enfin, et puis, je pense qu'il y a quand même un certain attachement de pas mal de monde à tout ce qui est le fameux, les fameux mondes AA. Il y a qu'à voir que lorsque, enfin, tout le monde a parlé de ce qui s'est passé chez Embracer ces derniers temps, etc. Donc, et qu'on voit qu'il y a quand même ce dont on parle depuis plusieurs émissions, cette polarisation entre d'un côté des mini-équipes sur le dev ou des joueurs du AAA et que toute la partie au milieu est en train de se casser la gueule parce que les risques sont trop, enfin, c'est soit t'es énorme et tu peux prendre des risques, soit t'es tout petit et tu peux prendre des risques, mais quand t'es au milieu, globalement, t'es entre le marteau et l'enclume, quoi.
Mmh, surtout quand le marteau et l'enclume s'appellent Nacon.
c'est vrai que les deux, là, voilà. Ouais.
C'est un peu compliqué, mais effectivement, pour rappeler vite fait, si on parle de ça, on parle de, il y avait Ishtar, il y a Pastèque qui a été évoqué. Si on parle juste des studios possédés par Nacon en France, on est à peu près à 1000 employés.
C'est
à peu près les termes qu'on évoquait en début de, au moment de la route du redressement judiciaire.
C'est ça.
Aujourd'hui, ça va être un peu moins, bizarrement.
Ouais. Pour le coup, si on reparle rapidement de la Nacon Connect, c'est pas ici que vous allez avoir l'intégralité des annonces, parce que là...
Ça a duré une heure, c'est ça ?
Ça a duré un petit peu moins d'une heure, et voilà, ça dure un petit peu moins d'une heure, il y avait quelques présentations, voilà. Par exemple, je n'ai pas entendu parler de Ishtar Games. Par rapport à Pastèque, c'était une mise à jour de Raven's Watch. Mm-hmm. Uniquement, pas de grosses annonces.
Pas de nouveautés. Il y a eu une nouveauté, Cyanide.
Voilà. Alors, chez Cyanide, il y a deux jeux qui ont été annoncés. Évidemment, Tour de France 2026.
Oui, enfin, annoncé. La page Steam avait déjà été montrée, les trailers aussi. C'est pas une annonce du Nacon Connect. Il n'est pas apparu pour le Nacon Connect.
Non, mais la date, par contre, elle n'y était pas. C'était pour le 4 juin, en tout cas.
Voilà. Mais voilà, c'était déjà un jeu qui était présent, qui était visible.
De toute façon, c'est comme les FIFA, on sait qu'ils arrivent. C'est chaque année. Hein, donc, voilà.
Mais il y avait le deuxième jeu.
Le deuxième jeu, Dracula.
Lui, par contre, est une annonce.
Était Dracula de Disciple.
The Disciple, oui.
Dracula the Disciple, qui est un nouveau jeu Cyanide.
Rien du tout. Hein. On a vu une cinématique de 30 secondes. On n'a pas vraiment vu de grand chose sur le jeu.
Et par contre, il y a une interview. Il y avait une interview, notamment, par contre, du game designer et du producteur pour un peu dire ce qu'ils allaient en faire. Et surtout, une date de une prévision de sortie à 2027.
Donc
une prévision que le studio existe encore en 2027.
Non, mais c'est une information.
C'est une info, en tout cas, il ne prévoit pas. On n'a pas d'annonce de PSE pour Cyanide.
Oui.
Et apparemment, s'il prévoit un projet pour 2027, c'est qu'à court/moyen terme, le studio, a priori, n'est pas menacé.
Voilà. Alors,
il fait partie de ceux qui sont en retouche
du bois pour cette.
Si on compare notamment avec la situation de Kiloton, mm-hmm. Kiloton a eu un jeu présenté pendant cette Nacon Connect qui est Endurance Motorsport, qui est un jeu qui était déjà annoncé depuis super longtemps hein, déjà. Vous avez entendu peut-être dans l'extrait. Que ce jeu-là, en interne, ils pensent le sortir à l'été. Lors de la Nacon Connect, il n'y a pas de date de sortie, de 1 et de 2. On a vu ça avec Romain, les images ne sont pas engageantes.
Ils n'ont pas montré non plus énormément de choses. Enfin, c'est vrai que ce n'est pas non plus le truc. Enfin, je n'ai pas trouvé une bonne mise en avant du produit. Ça ne veut pas dire que. Voilà, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais sur la Nacon Connect, il y avait des choses qui étaient mieux mises en avant.
Oui.
Pour un jeu qui est censé sortir dans quelques mois, c'est effectivement un peu inquiétant, surtout que ça sera pas le premier éditeur à dire finalement en fait ce qu'on vous a montré, oubliez.
Oui, et en plus dans la communication, dans la Nacon Connect, il n'y avait pas de date de sortie.
Oui.
C'est-à-dire que quand en interne les gens disent c'est censé sortir cet été, et cet été c'est dans 2-3 mois maximum, et que de l'autre côté on dit pas de date.
Oui, j'attends de voir. Mais effectivement, c'est pas rassurant. C'est pas rassurant. C'est pas forcément. Ça veut pas forcément dire que le truc est mort. Mais
je serais pas surpris en fait que ce soit un jeu qui soit récupéré par Grid Games, qui soit modifié et ressorti peut-être en 2027-2028, justement. On va dire avec un studio plus compliant, avec plus aligné avec sa maison mère.
Ouais.
Possible, ouais. Mais c'est à voir, on verra bien ce que ça.
Juste terminer en terminer en fait avec les demandes en fait qu'ont les oui. différents grévistes.
Voilà, le pic de grève c'était aussi pour
voilà, ils avaient des demandes et des demandes en fait assez complètes qui ne concernent et Kiloton et Nacon de façon générale.
Nous au syndicat, on demande l'annulation pure et simple de tout plan de licenciement. Tant que la direction n'a pas présenté un plan solide, sourcé et chiffré pour le maintien dans de bonnes conditions des prochaines productions et le redressement du studio. On demande aussi la révision des contrats avec Nacon, qu'on ait des relations plus saines en fait, avec notre maison mère et notamment qui nous permettent d'avoir des capacités de survie parce qu'actuellement on est maintenu dans la précarité qui aujourd'hui ont mené au redressement judiciaire. On demande aussi la reconnaissance de tous les travailleurs du studio en statut cadre, comme le voudrait normalement la convention collective. Et surtout, on voudrait que le projet qui a été annulé en pré-production unilatéralement par Nacon soit relancé et qu'on ait le droit de le présenter à d'autres investisseurs, s'ils ne veulent pas le financer.
Voilà, donc en fait, tout simplement, au-delà en fait de l'annulation des licenciements, le STJV demande des moyens de survie pour l'entreprise.
C'est ce qu'on disait sur le côté mise en précarité permanente, que ce soit chez Spiders, visiblement Kiloton pareil, dans sa relation avec Nacon, clairement, sur la façon de gérer la relation éditeur, exploité, quoi. T'as vraiment l'impression que c'est ce type de relation et pas maison mère filiale qui produit. Enfin, on n'est vraiment pas dans ce genre de relation qui peut être saine parfois et qui ne l'est visiblement pas chez Nacon.
Je conclurai en disant que la grève est toujours en cours, hein, vu D'accord. que la grève, pour l'instant, elle a, si je dis pas de bêtises, c'est à minima jusqu'à mardi prochain. Vu que la réunion pour présenter les modalités du PSE n'a pas eu lieu aujourd'hui comme elle devait avoir lieu, ce sera justement ce mardi si tout se passe bien. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on saura l'étendue des dégâts, même si la prévision faite par les syndicats est de 70% des effectifs qui seraient concernés, c'est-à-dire qui devraient partir.
Juste pour
Je t'en prie.
Je vais finir avec le communiqué lui-même du STJV d'hier.
Je voulais juste donner un petit truc. Actuellement, Kiloton est en redressement judiciaire, donc un PSE lors d'un redressement judiciaire, c'est pas pareil qu'un PSE tout court. Mmh. Un PSE lors d'un redressement judiciaire, tu as, si je dis pas de conneries, en 3 semaines, c'est terminé.
D'accord, il y a un objectif de timing,
c'est extrêmement rapide.
Normalement, c'est 3 mois.
On va vite savoir.
Normalement, c'est 3 mois.
Et je serais pas surpris que Nacon le sache et fait exprès.
Bien sûr. C'est parce que c'est important de le préciser.
C'est, timing,
c'est important de le préciser parce que jusqu'à présent, on dit justement, un redressement judiciaire, t'as 1 an, tout ça. Oui, mais si tu as un PSE pendant un redressement judiciaire, c'est 3 semaines.
Ça explique le fait qu'il n'y ait pas de date de sortie pour le jeu à l'été.
Parce que
si dans 3 semaines, il n'y a plus rien.
Ou en tout cas, 70% des employés qui partent, ça va être plus compliqué de le finir à temps.
Possible.
Ouais. C'est clair. C'est une bonne remarque, effectivement, qui remet le contexte de toutes ces procédures qui ont des réalités juridiques aussi.
C'est ça.
Je voulais juste finir avec certains messages certains mots qui ont été utilisés dans le communiqué du STJV d'hier, à l'annonce justement de tout ça. Contre quoi ils ont lutté en tant que salariés au sein du truc. Donc on peut parler effectivement des conditions, des abus de biens sociaux, certains vérifiés qui sont cités notamment dans le document. Le retrait à la demande de Nacon de toutes les lignes de dialogue mentionnant des relations homosexuelles dans Test Drive Unlimited pour éviter soi-disant un review bombing. Je vous laisserai libre de penser ce que vous voulez de ça. Les insultes, la direction de Kiloton allant jusqu'à nous traiter depuis la piste.
Ah oui, ça,
on
m'a parlé de ça, mais ce sera une histoire pour un autre jour.
Ouais, mais voilà, c'est des petits détails comme ça. Pour ça que du coup, je vous invite à lire ce communiqué qui est intéressant par rapport à ça, sur beaucoup de choses. Et il finissait effectivement en parlant du fait d'inviter les gens, en tout cas, à ne pas donner d'argent à Nacon en achetant leurs produits, en appelant les gens évidemment à se les procurer par peut-être par exemple le marché de l'occasion, par hasard, par exemple.
Oui, le marché
ou
local.
Tout autre moyen qui ne donne pas d'argent à Nacon.
Je vous laisse libre de comprendre ce que vous voulez comprendre.
Oui, la concurrence, c'est bien la concurrence aussi.
Il y a suffisamment de jeux qui existent, qui sont faits par des studios corrects, pour éviter de donner de l'argent à ce genre de studio.
À cette, en tout cas dans cette situation-là, effectivement.
Ce genre d'éditeur.
Ouais, ouais. Mais on va suivre ça, parce qu'on en a parlé suffisamment, je pense que ce n'est pas terminé. Il reste
non.
encore la situation
non, non, de toute façon,
à,
là, par
à
exemple,
à, jour,
à l'heure où on parle, le Kiloton a toujours autant d'employés, et le PSE n'a pas commencé.
Il doit encore être validé par l'administrateur judiciaire,
voilà.
Il y a encore des choses qui vont se
actuellement, à l'heure où on parle, Cyanide, Bad Wolf, Nacon Tech sont encore en redressement judiciaire, on ne sait pas ce qui va advenir d'eux. On ne sait pas, parce que s'il se passe la même chose, c'est Cyanide, comment ils vont pouvoir assurer toutes les productions qu'ils ont prévues et qu'ils ont annoncées
aujourd'hui.
Et qu'ils
viennent d'annoncer, exactement. Ouais.
Voilà, donc,
il y a beaucoup d'annonces de jeux qui seront édités simplement par Nacon, mais pareil,
oui, notamment les jeux Trayon, c'est que de l'édition.
Par exemple, mais malgré tout, il faudra quand même continuer à exister, tout simplement. Et
c'est ça.
Pour l'instant, Nacon, ils sont toujours dans une procédure de redressement judiciaire.
C'est ça. Donc, voilà. C'est wait and see, mais évidemment, on vous en reparlera dès qu'on aura du neuf. Merci Julien.
Merci Xavier, merci Romain.
Merci beaucoup Xavier pour merci à Emeline du coup.
Merci Emeline.
Merci effectivement pour avoir communiqué ces informations très intéressantes et de première main.
Très bien. Donc,
c'était effectivement très très intéressant et complet.
Voilà, et merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission un peu folklorique vu que ce sera juste avant l'Indie Game Lyon, donc je sais pas trop de quoi on va parler.
Oui, je suis pas sûr d'être là personnellement.
Voilà, donc si t'es pas sûr d'être là du tout, ben il y aura peut-être même pas d'émission, ce sera plus simple encore.
Voilà, et on fera un bilan d'Indie Game Lyon.
Même pas, parce que le 21 on a un invité.
C'est vrai.
On a un invité et on parlera d'e-sport et parlera de notamment de l'économie du e-sport et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez.
C'est un super sujet.
Ah oui, parce que bon, quand on parle d'e-sport, on parle souvent la communauté, on parle prize money ou ce genre. Ouais, mais il y a toute l'économie de comment on organise ça, comment se font les deals avec les différentes boîtes, etc. Je pense que ça sera très intéressant. J'ai hâte de voir ça.
Est-ce qu'il y a un événement bientôt, une sorte de Coupe du Monde de l'e-sport avec plein de clubs qui sont éventuellement... Bref, il y a tout un délire avec toute une équipe de France qui est des gens qui veulent pousser pour ça.
Oui, et ça a été un sacré bordel pour organiser tout ça. Donc,
Merci beaucoup.
Merci.
Des bisous.
Ciao.
Ciao.